Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonsoir et bienvenue dans cette grande séance où on va parler plus que jamais de l'actualité. Vous connaissez le concept, vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre et on va vous dire comment. D'abord nos blogueurs évidemment, à tout seigneur tout honneur, Antoine Corté, Bulle de Culture, Actu du Blog, bonjour.
Ben bonjour, bonjour à tous.
Et Alexis Yomet, CloneWeb et Filmosphère.com.
Bonjour Bruno.
Bonjour, on se reverra tout de suite pour nos coups de cœur. Alors nos invités, c'est un peu spécial aujourd'hui, ce sont trois invités qui sont pile poil dans l'actualité, puisqu'on va avoir l'honneur et le plaisir d'essayer d'avoir Bertrand Tavernier pour son formidable voyage à travers le cinéma français. Pourquoi essayer d'avoir ? Parce que Bertrand Tavernier a quitté le Festival Lumière de Lyon, où il avait présenté son très beau film. Vous savez qu'il est patron avec Thierry Frémaux de cet Institut Lumière, et qu'il est en route, en voiture, vers Grenoble, où il va encore présenter son film. En fait, il fait un petit voyage comme ça pour présenter son film un peu partout. Et son film, moi je l'ai vu cet après-midi, il est formidable, et la salle d'ailleurs était pleine, rue Lincoln à Paris. On aura Jérôme Salle, le réalisateur de l'Odyssée, qui sort aussi aujourd'hui, et cette fresque assez incroyable autour du commandant Cousteau, et puis le producteur de La Fille Inconnue, des Frères Dardenne, qui sort également aujourd'hui, Denis Fred, qui nous parlera de sa collaboration avec les Frères Dardenne, puisqu'en fait, on l'appelle, lui, Denis Fred, le troisième frère, tellement il a l'habitude, depuis 16 ans, je crois, de travailler avec les Frères Dardenne. Il a fait énormément de films avec les Frères Dardenne, on en parlera avec lui tout à l'heure. Nicolas Balazar, dites-nous comment on peut communiquer avec nous.
Bonsoir à tous. Donc pour participer à l'émission, c'est sur Twitter Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre compte Facebook Séance Radio.
Alors tout à l'heure, on va bien sûr faire à notre habitude le box-office, les tops et flops français et américains. On aura les coups de cœur de nos blogueurs, on parlera du Festival Lumière, on aura Antoine Julien par téléphone. Et puis bien sûr, on en aura un peu parlé avec notre ami Bertrand Tavernier. On parlera aussi du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon. Le débat, eh bien on parlera des films sur le djihad. Et puis on aura une petite interview de Noémie Merlant qui joue Sonia, l'une des djihadistes qui va essayer d'être désembrigadé dans ce film Le ciel attendra qui est sorti la semaine dernière. Elle nous parlera du cinéma français qui maintenant s'intéresse à l'actualité beaucoup plus vite qu'autrefois. Voilà, ça sera l'objet de notre débat. Et puis en blind test, la mère au cinéma, là il faudra vous accrocher à l'occasion évidemment de la sortie de l'Odyssée. Dans un instant, on parle des tops et des flops.
La grande séance, le box-office.
Alors le box-office, alors attention, attention les yeux. Du côté français, eh bien c'est Radin de Fred Cavaillé, auteur de Polar, mais là qui s'est mis pour une fois à la comédie, qui cartonne avec en deuxième semaine le chiffre extrêmement précis à ce jour de 1 600 6 587 spectateurs, c'est pas mal, 1 700 000 pratiquement, avec évidemment un succès pour Danny Boone. En attendant qu'on voit son film qu'il a réalisé lui-même, Red Dingue, qu'on verra dans les prochaines fois. Et puis, je voulais absolument saluer le film de Karine Dridi, Chouf, qui est un très bon film, j'ai trouvé, fort. Et on l'attendait pas, car en première semaine, Karine Dridi, avec Chouf, qui est sur les quartiers chauds de Marseille, qui est une histoire de trafiquants, de jeunes, de vengeance, de famille, 120 000 entrées en première semaine. C'est peut-être, je ne suis pas sûr, un des meilleurs démarrages pour un film de Karine Dridi, Chouf. Côté flop, eh bien, Cézanne ne marche pas très bien, Cézanne et moi de Daniel Thompson. Le ciel attendra, alors je suis désolé pour la petite Noémie Merlant qu'on aura tout à l'heure en interview, ne marche pas très très bien, mais il fallait le voir parce que c'est un excellent film. Il a moins bien démarré que les Héritiers, le film précédent de Marie-Castille Mention-Char. Il est à moins de 200 000 entrées, mais surtout, allez voir ce film. C'est pas du tout un film scolaire, c'est pas du tout un film pédagogique, c'est un très beau film sur une famille bouleversée par ces deux filles qui sont, enfin les deux filles de chaque famille qui deviennent djihadistes. Un très beau film, il faut absolument aller le voir. Et dans les flops, malheureusement, il y a Sophie Marceau et sa tolarde qui, au bout de 3 semaines, n'est pas à 200 000 euros. Il est à 200 000 euros. Oh le lapsus. N'est pas à 200 000 spectateurs, il est à 180 000 spectateurs. Mais il a perdu de l'argent, c'est d'où mon lapsus. Côté top américain, eh bien, on est un peu surpris car c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton qui bat en fait Bridget Jones' Baby. Il est aujourd'hui à 754 980, on veut dire 755 000 entrées en première semaine, Miss Peregrine, ce qui est un bon résultat pour Tim Burton.
Bah après, Alexis, ça s'adresse pas forcément au même public, puisque ouais, là c'est plus pour les enfants, donc
pour les
je
jeunes,
pense que
ouais,
le public...
Vous voulez dire que le public de Bridget Jones a vieilli, vous avez raison.
Ou alors il s'est peut-être moins mobilisé.
Il s'est moins mobilisé, absolument. Et Bridget Jones, bon, marche pas mal, puisqu'il est à 632 000 entrées des poussières. Et le flop, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de flop américain ces derniers temps, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de grosses sorties américaines non plus. Mais le flop, c'est quand même Les Sept Mercenaires
d'Antoine Fuqua,
qui en 2 semaines n'a pas atteint les 480 000 entrées. Voilà. Alors, maintenant, dans un instant, on va se retrouver pour notre séquence avec nos 3 invités par téléphone. Et on va commencer dans un instant par Bertrand Tavernier.
La grande séance, l'interview.
Bertrand Tavernier, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, je suis ravi, Bertrand, de vous avoir, parce que vous êtes un homme...
Moi, je suis ravi de vous parler.
Vous êtes un homme très occupé en ce moment, hein.
Je suis assez occupé. Entre le Festival Lumière, la sortie de mon film, je peux dire que les heures de sommeil se font rares.
Mais c'est excitant.
Mais c'est très, très, très excitant et je suis très heureux.
Alors oui, vous avez présenté votre film au Festival Lumière dimanche soir dernier, mais en plus, comme il y a énormément de salles, vous l'avez présenté plusieurs fois depuis dimanche.
Oui, je l'ai présenté des tas de fois et il y a eu des réactions formidables. Et tout d'un coup, d'avoir le metteur en scène Walter Hill qui vient 3-4 reprises me dire qu'il a été bouleversé par le film, que maintenant il veut savoir que je lui envoie où trouver des DVD des films de Gréville, des films d'Eddie Constantine, des films... Là, c'était formidable, c'est formidable.
C'est génial. Et moi, Bertrand, oui, j'ai été voir le film cet après-midi dans la salle rue Lincoln. C'était une petite salle, mais elle était pleine. Alors, ce qui était assez extraordinaire, c'est de voir l'accueil des gens qui sont des spectateurs, qui sont tout ouïe et qui rit. Et alors, on va dire, évidemment, aux auditeurs qui nous écoutent que c'est un film de 3h12, je crois, qui explore le cinéma français. Mais ce qui est très beau dans votre film, Bertrand, et je le dis très sincèrement, c'est que c'est pas du tout pédagogique dans le mauvais sens du terme. C'est que c'est votre histoire et votre histoire d'amour avec le cinéma. C'est ça, hein?
Oui, absolument, absolument. J'espère que c'est un film. C'est pas un cours. Je suis pas guide de musée. Je ne suis pas, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être le metteur en scène et je raconte en metteur en scène, en réalisateur. Et j'espère que le film, il est cocasse, il est drôle, il est vivant, il est énergique, il a plein d'anecdotes qui sont, où je raconte des trucs qui m'ont fait, qui m'ont marqué, qui m'ont fait rire, dans les films et dans la manière dont on les voyait.
Et en plus, vous êtes, et ça ne gâche rien, un bon pédagogue dans le meilleur sens du terme, parce que du coup, pour le spectateur, on analyse une image de Renoir, le rythme de Jacques Becker, on revoit ces images qui sont formidables, on se dit qu'est-ce que c'était beau le cinéma à l'époque.
Oui, c'était très très beau, le cinéma actuel est aussi très très beau. Mais quand je vois, il y a des films magnifiques, comme, je sais pas moi, La Danseuse, j'ai trouvé que c'était un film tout à fait passionnant de Stéphanie Bigousteau. Mais j'en parle comme un réalisateur, justement, pas comme un critique de cinéma, j'en parle parce que moi, je suis touché par, tout d'un coup, une manière de, un choix d'un objectif, j'essaye de montrer ce qu'il y a de fort dans ce que fait Carnet avec un palier, ouais. comment il filme un dégât. J'essaye de montrer ce que signifie la profondeur de champ pour Renoir,
Oui, c'est extraordinaire ça. Il y a des plans magnifiques où oui. où il y a un plan, c'est, je crois que c'est dans la règle du jeu, où tout le monde apparaît petit à petit sur l'écran, comme ça, oui. Et là vous l'expliquez très bien.
Oui, oui, c'est ça que c'était pour lui une manière de se, de, je dis pas de se rebeller, mais de se différencier de son père, qui lui abolissait la profondeur de champ. J'essaye de raconter des choses qui sont comme ça, qui sont pas élitistes, ennuyeuses, qui sont des trucs qui et qui fournissent un peu le cœur, le sang des films.
Oui, et puis alors c'est formidable aussi de retrouver Jean Gabin, parce que vous le dites avec beaucoup de justesse, après la guerre, on a dit Jean Gabin fait un petit peu toujours la même chose. Alors il est très touchant, parce que vous avez des interviews incroyables aussi, que vous avez retrouvées dans des archives. Il dit, il raconte comment il a été un des seuls acteurs, ou le seul acteur à racheter son contrat à Universal pour aller se battre comme fusilier marin, quoi.
Oui,
ça.
Oui, le seul français même, on
le seul
peut
français,
dire,
ouais.
Qui est payé pour faire la guerre.
Oui.
Oui, puis il raconte comment il a eu tout d'un coup ses cheveux blancs.
En une nuit.
Et
puis alors, Bertrand, et pardonnez-moi de vous couper, je me souviens plus du titre du film, mais il y a ce film qui n'est pas très connu, où quelqu'un lui dit à propos de la guerre, moi je sais pas quoi, j'ai pas trafiqué avec les Allemands et les Américains, et toi qu'est-ce que t'as fait, où t'étais, et il dit sur les plages. Et c'est super beau, ça.
C'est un truc de Gilles Grangier et Gilles Michel Grangier. Audiard, et tout d'un coup, le sous le signe du taureau, et tout d'un coup, il y a un petit bout autobiographique qui surgit par surprise dans une très belle scène dialoguée, parce que Audiard, c'est pas n'importe quoi, de quelqu'un où Alfred Adam dit « Moi, j'ai peut-être gagné du pognon avec les frites, on m'a accusé, mais j'ai encore plus gagné avec les ricains en quelques mois avec les ricains de ce que j'ai arrivé à gagner avec les frites. » Et toi, il lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu faisais pour le moment où tu étais ?» Et Gabin t'a dit « Sur les plages, puisqu'il faisait le débarquement, qu'il a fait la campagne d'Italie, qu'il a fait la campagne de France. » Et en une phrase, tout d'un coup, il y a l'héroïsme de Gabin qui surgit à la Gabin, c'est-à-dire de manière pudique, sans le dire. Et c'est formidable. C'est rien que ça, moi, c'est de découvrir des pépites comme ça, de découvrir un moment où on disait Gabin, il s'embourgeoisait, c'est quelqu'un qui entraîne le lieu commun et le cliché Gabin. Des gens disaient Gabin, il fait toujours du Gabin. C'est pas vrai, on prend trois extraits de trois colères et on voit qu'il n'y a aucune des colères qui est pareille.
Mais bien sûr, c'est un immense acteur, Et en plus, vous n'êtes pas langue de bois, parce qu'à un moment, mais ça, on va laisser les spectateurs le découvrir. Vous parlez de Renoir, qui n'avait pas toujours de bon côté, d'ailleurs, Gabin dit, en tant que cinéaste, c'est un génie, et en tant qu'homme, c'est une pute, on peut le dire.
Oui, il le dit, mais il le répétait tout le temps, il me l'a dit trois fois, Gabin.
C'est vrai.
Gabin. Et il le vénérait en tant que cinéaste, mais il ne lui a jamais pardonné. Les prises de position que Renoir a pris en 40 vis-à-vis du régime du maréchal Pétain.
C'était
d'envoyer une lettre pour éliminer les Juifs.
On voit la lettre.
C'est quand même pas très très honorable, d'autant que aucun metteur en scène ne s'est comporté comme ça.
Mais merci Bertrand, je vais rajouter que quand même il y a un double CD qui sort chez Universal où il y a d'abord d'une part la bande originale composée par Bruno Coulet et puis
qui est magnifique
et les musiques des films dont vous parlez.
D'une partie des films, en tous les cas, 28 morceaux dont au moins une vingtaine étaient quasi introuvables. Je pense à la musique de Regain, au générique du Salaire de la Peur, à la musique de Classe Touriste, à des chansons formidables comme de Bien Entendu, Sabardet, d'Eddie Constantine, qui est une chanson formidable. Donc on a tout réuni avec mon ami Stéphane Leroux.
J'allais le citer.
Oui, voilà, qui a fait c'est 1h25 de bonheur absolu, ça, et de musique très 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 rare. Voilà, cher Bruno.
Merci Bertrand d'avoir été avec nous, c'est super sympa, et bonne soirée à Grenoble. Bon courage.
Merci
à vous Bertrand. Voilà, nous étions donc avec Bertrand Tavernier pour cette interview, et c'était vraiment exceptionnel de l'entendre, et je recommande absolument d'aller voir ce voyage à travers le cinéma français. Vous ennuierez pas une seconde, ça dure 3h12, mais pour tous ceux qui aiment le cinéma, il n'y a pas besoin d'être cinéphile, parce qu'il explique tellement bien que vous verrez d'autres films et des nouveaux films d'un autre œil après le sens de la pédagogie de notre ami Bertrand Tavernier. Alors, on passe d'un réalisateur à l'autre. Alexis ?
Oui, parce que moi j'avais vu Le Voyage à travers le cinéma français à Cannes, j'avais vu la première projection et tout ça, et c'est vraiment plus qu'un voyage, puisqu'il y avait déjà eu il y a 20 ans celui de Martin Scorsese avec le cinéma américain, que là celui de Bertrand Tavernier, c'est pas un cours, c'est vraiment il passe de mentor en mentor, parce qu'il a commencé en tant que stagiaire, assistant réalisateur, et justement il raconte toutes ces histoires-là, les petites histoires en coulisses, et c'est vraiment un film extraordinaire, et aussi sur le cinéma populaire à l'époque, parce que les films de Duvivier, tout ça, et de Gabin.
Absolument. Alors, on passe d'un réalisateur à l'autre. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jérôme Salles, alors j'ai pas besoin de présenter Jérôme Salles, mais ça me fait plaisir de dire en 2005 Anthony Zimmer avec Sophie Marceau et Yvon Attal, en 2008 Largo Winch qui a cartonné d'ailleurs parce que 2 millions d'entrées, Largo Winch 2, Zulu que j'ai adoré, qui était je crois en clôture d'un festival de Cannes, et aujourd'hui l'Odyssée. Alors le cœur bat fort.
Oui, mais d'abord, je vais juste dire un mot, parce que je sais que vous étiez avec Bertrand Tavernier juste avant, et en tout cas, on se fera un film le même jour, Bertrand et moi, et en tout cas, moi, j'ai très très envie de voir son film. Voilà, j'ai pas pu le voir, parce qu'évidemment, j'étais pris par la promo, mais je pense que dès demain, je vais me précipiter.
Vous allez voir, Jérôme, c'est passionnant. Alors, 6 mois de tournage pour l'Odyssée, une aventure incroyable avec Audrey Tautou, qui joue Simone, l'épouse un peu délaissée de Jacques-Yves Cousteau, Lambert Wilson avec son bonnet rouge, Pierre Dinet qui joue Philippe Cousteau, Benjamin Laverne qui joue Jean-Michel Cousteau. Ça a été la plus grosse aventure cinématographique au niveau du tournage de votre vie.
Ah oui, je pense que ça restera d'ailleurs sans doute, la plus grande aventure, parce que c'est vrai que c'était un film très... très compliqué à faire exister, c'était un vrai défi, parce qu'il réunissait tout ce qui est compliqué au cinéma, en fait. C'est-à-dire, vous tournez sur l'eau, vous tournez sous l'eau, il y a des animaux, forcément.
Il y a des enfants.
Il y a des enfants, il y a du vieillissement. Voilà, plus des défis un peu improbables que j'ai choisi, hein, ceci dit, qui était d'aller tourner en Antarctique, et puis de tourner la nature, de rester un film sur la nature, donc je voulais pas être avec des fonds verts, je voulais pas être dans les effets spéciaux, dans les trucs fabriqués sur ordinateur. Donc effectivement, c'était un défi et technique et humain, mais en même temps, c'était une aventure exceptionnelle pour nous tous.
Alors, vous avez vécu virtuellement avec Jacques-Yves Cousteau pendant des mois et des mois, vous êtes renseigné, etc. Comment était l'homme, cet homme ?
Ah, c'est un homme compliqué. Moi, ça fait des années que je travaille sur ce sujet et j'avais été frappé dès le début de mon travail sur le fait qu'il n'y avait pas de portrait balancé, je dirais équilibré, de Jacques-Yves Cousteau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le détestaient et des gens qui le vénéraient. Et il n'y avait pas beaucoup d'entre deux. Alors sans doute parce qu'il y a des gens qui le vénéraient trop, d'autres se sentaient obligés de le détester, j'imagine. Donc moi j'ai essayé de faire le portrait d'un homme. Maintenant j'ai de l'admiration pour cet homme. Je crois que je suis un peu comme l'équipage de la Calypso. J'ai compris peu à peu qu'ils avaient de l'admiration pour Cousteau, pour son énergie, sa créativité, son courage, et de l'amour pour Simone, sa femme, surnommée la bergère, qui était là au quotidien sur le bateau, etc. Donc j'ai ce rapport-là, je pense, avec ce couple.
Et vous avez trouvé aussi, et ça c'est le point de vue du film, enfin l'un des points de vue du film, mais c'est un peu le fil, c'est cette histoire tragique dans sa vie, parce que son fils, Philippe, qui est joué par Pierre Ninet, avait des rapports orageux avec son père, et le fait qu'il soit mort à 39 ans, je crois, Philippe Cousteau, dans son hydravion, d'ailleurs c'est dans le film, je crois, si je me souviens bien, au début du film, absolument. Je l'ai vu à Angoulême, le film, ça a été un drame dans sa vie pour Jacques-Yves Cousteau.
Je crois que c'est un drame j'ai l'impression que c'est un drame qui a brisé sa vie. Il y a une proche de Jacques-Yves Cousteau qui m'a dit un jour cette phrase très jolie: lorsque Philippe est mort, la vie a continué, mais la musique s'est arrêtée. Et oui, je crois qu'effectivement, ça a été le grand drame de la vie de Cousteau. Il y a une ironie dramatique terrible, parce que finalement, Cousteau est un homme qui a réalisé tous ses rêves. Le seul rêve qu'il n'a jamais pu réaliser, c'est celui de voler, qui était son premier rêve d'être pilote. Et il a eu un accident lorsqu'il avait 25 ans, en 1935, qui l'a laissé handicapé d'un bras, et qui l'a empêché de devenir pilote. Et son fils n'a eu de cesse que de piloter tout ce qui pouvait lui tomber sous la main, alors sans doute pour pouvoir justement dépasser son père dans un domaine. Et voilà, l'ironie dramatique étant qu'il est mort donc au volant d'une de ses machines, sous l'eau en plus. Donc voilà, c'est à la fois au volant en train de piloter un avion et à la fois sous l'eau. Je trouvais ça assez terrible.
C'est passionnant pour un cinéaste, pour un réalisateur de diriger à la fois Audrey Tautou, Lambert Wilson et Pierre Niney.
Oui, ça faisait aussi partie des choses. Je me suis battu beaucoup pour que ce film existe parce que, alors, évidemment, il y a l'aspect spectaculaire. Filmer la planète, c'est une chance. Moi, j'adore filmer les grands espaces. Mais il y avait aussi dans le film une dimension très intime, justement, sur cette famille dont vous parliez tout à l'heure. Et ce mélange-là me passionnait. Et les trois acteurs que j'ai eu la chance d'avoir avec moi, enfin, tous les acteurs, mais je parle de ces trois-là parce que c'est les trois rôles les plus importants qui ont été le plus présents avec moi. C'était une chance, ouais. C'était un cadeau. C'est des acteurs extrêmement talentueux qui sont beaucoup investis dans le film et puis des êtres humains de qualité, parce que quand vous vivez des tournages aussi durs physiquement et parfois moralement que cela, il faut être entouré par des gens de qualité. C'était le cas.
On dit que Pierre Niney ne s'est pas fait doubler pour aller au milieu des requins. C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. C'est marrant parce qu'on avait peur, et lui et moi d'ailleurs.
Lambert Wilson, il n'est pas allé, lui, hein.
Mais parce qu'il n'a pas eu besoin, il y serait allé.
Oui, il y serait allé.
Il a plongé avec des baleines, lui. Mais non, il en avait peur, et lui et moi, et en même temps, on avait très envie de le faire, et lui et moi, et on l'a fait tous les deux, et en fait, on s'est surtout aperçu qu'on a réussi à dépasser notre peur, somme toute, assez facilement. Parce que voilà, vous vous apercevez quand vous êtes sous l'eau que ces animaux sont des seigneurs et qu'ils sont fascinants et qu'ils sont beaucoup plus fascinants qu'effrayants finalement quand vous êtes avec eux. C'est toujours pareil, vous savez, c'est l'inconnu, c'est ce qui se passe sous l'eau, c'est ce que vous ne voyez pas qui fait peur. Une fois que vous êtes avec eux sous l'eau, au fond, ils ne vous effraient plus.
Alors c'est une belle fresque en plus qui est à voir pour tout public, hein, parce que je crois qu'on peut vraiment dire la phrase classique de 7 à 77 ans, parce que les enfants peuvent voir le film.
Ouais, c'est très familial.
Ma dernière question, c'est la performance technique, parce que je sais que pour faire tout ça pendant 6 mois, il a lui Cousteau, inventait une caméra étanche, un scaphandre et tout, mais vous, il y a eu d'avoir des prouesses techniques de la part du chef opérateur aussi.
Oui, nous on a fait beaucoup de recherches pour réussir, si vous voulez, à amener sous l'eau la qualité technique qu'on a sur l'eau sur ce genre de film, donc avec maintenant aujourd'hui des caméras numériques, mais des objectifs anamorphiques, donc du cinémascope, et je tenais à avoir cette même qualité sous l'eau. Donc effectivement, ça nous obligeait à beaucoup travailler, à beaucoup tester, trouver le bon matériel, adapter les caissons pour pouvoir avoir des focales anamorphiques qui sont très imposantes. Et puis aussi, en dehors même de la technique, ce qui était assez passionnant, c'est que c'est une grammaire différente sous l'eau, vous êtes en trois dimensions. Donc il faut pas tomber dans la grammaire du documentaire, justement, qui est de suivre un plongeur comme ça sans découpage. Donc faut découper, mais faut découper en trois dimensions. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a toute une technique au fond à apprendre, et ça c'était tout à fait passionnant. Ouais.
Merci en tout cas Jérôme Salle d'avoir été avec nous au téléphone, et longue vie à l'Odyssée. Merci à vous beaucoup. Voilà, on parlait de l'Odyssée avec Jérôme Salle, le réalisateur, le film avec Audrey Tautou, Lambert Wilson, Pierre Niney, et puis bien d'autres acteurs, qui est une fresque familiale, une très belle fresque. Dans un instant, on va retrouver Denis Fred, le producteur.
Juste pour l'Odyssée.
Oui, Antoine Corté.
Le film, effectivement, visuellement, est superbe. On voit des images sublimes à la fois de la nature, des fonds marins. Ensuite, effectivement, sur l'histoire en tant que telle, il faut dire que c'est un film qui a coûté très très cher, puisque son budget c'est 20 millions d'euros, sauf qu'en fait c'est un film qui devait coûter le double au début, et il a eu des très très gros problèmes de financement, et du coup il a dû un peu aménager le scénario la dernière minute.
Oui, parce que le film a coûté cher, hein.
Je crois même qu'il y avait eu la rumeur comme quoi il allait être tourné en 3D, puis finalement je crois que c'était abandonné.
Exactement.
Assez vite.
Et malheureusement, effectivement, le fait d'avoir un peu remanié le scénario à la dernière minute, ça se sent un petit peu, parce que du coup il a vraiment tourné vers l'aspect dramatique, notamment entre la relation entre Philippe et le commandant Cousteau, et je pense qu'il aurait pu avoir plus de finesse dans sa dramaturgie, dans la façon d'amener les choses. Voilà.
Merci pour ce commentaire, Antoine Cortet. Alors, on a parlé donc avec Bertrand Tavernier de son voyage dans le cinéma français, avec Jérôme Salle de l'Odyssée. Et il y a un troisième film important qui sort aujourd'hui, c'est La fille inconnue, des frères Dardenne. Or, nous avons Denis Fred au téléphone, qui est producteur et qui connaît bien les frères Dardenne, puisque je le disais en début d'émission, on le surnomme parfois le troisième frère. Il a fait avec les frères Dardenne Le Fils, L'Enfant, Le Silence de Lorna, Le Gamin un vélo, Deux jours une nuit, La fille inconnue. C'est lui qui a produit le film Voir du pays des sœurs Coulin, Delphine et Muriel, qu'on a eu l'une des sœurs dans ce studio. Et il a produit aussi Bamako, d'Abderrahmane Sissako, L'exercice de l'État de Pierre Scheler. Bref, c'est un grand producteur. Pascal Ferrand, Bird People, Tsili d'Amos Gitaille. Mon cher Denis Fred, bonjour.
Bonjour.
Alors, le producteur du film La fille inconnue doit lui aussi, je posais la question à Jérôme Salle, réalisateur pour l'Odyssée, doit avoir un peu le trac aujourd'hui, jour de sortie du film, parce que vous les connaissez depuis longtemps, depuis 16 ans, ces frères Dardenne.
Oui, absolument. On s'était même connus au début des années 80 autour d'Armand Gatti, donc c'est vraiment une longue relation. Et c'est vrai qu'un jour de sortie de film, c'est toujours un jour de grande tension, voilà, parce que quoi qu'on fasse, on a envie de toucher le public. Et donc là, ils sont en route pour New York, puisque leur film est présenté là-bas, mais ils attendent impatiemment de connaître les chiffres à leur arrivée.
Comme vous.
Absolument.
Alors, cette fille inconnue, je vais faire le pitch de mémoire. Nous sommes dans le cabinet d'une jeune médecin qui est jouée par Adèle Haenel. Elle ausculte un malade, et parce que j'ai vu deux fois le film, elle ausculte un malade, et au même moment, la sonnette de la porte d'entrée, mais comme elle a dépassé déjà l'horaire de son cabinet d'une heure, elle ne répond pas et elle dit au jeune assistant qui est avec elle de ne pas répondre. Or, ça va être dramatique car le lendemain, la police arrive et lui déclare que la jeune fille qui a sonné à son cabinet et dont on voit les images vidéo est décédée. On l'a retrouvée sur un quai de fleuve. Ça se passe dans la banlieue
de Liège,
là d'où sont partis les frères Dardenne. Et cette jeune femme va se sentir responsable parce qu'on va s'apercevoir et on peut le dire qu'elle a été assassinée, la jeune fille. Et elle va vouloir retrouver le nom de cette jeune fille, d'abord pour qu'elle soit enterrée décemment et parce qu'elle veut savoir. Elle se sent responsable et c'est ce sentiment de responsabilité qui va courir dans tout le film. J'ai bien résumé.
Tout à fait, voilà. Exactement ça.
Alors, comment travaillent les frères Dardenne? Parce que je sais, pour les connaître aussi depuis longtemps, que pour moi, ce sont des grands cinéastes, ce sont les Ken Loach belges, on peut le dire. Et je sais que ce qui les intéresse, c'est un fait de société, mais intéressant, hein, un peu exemplaire, qu'ils vont reprendre et qu'ils vont tourner en fiction. Et ça dit toujours beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous diriez d'eux, vous qui les connaissez depuis 16 ans?
Oui, tout à fait. Eux, ce qui les intéresse, c'est les laissés pour compte, ceux qui sont un peu en marge du système, mais en même temps pas du tout pour en faire des causes, mais pour créer une fiction à partir d'eux. Mmh. Voilà, en faire des personnages de fiction et les héros de leurs films, qui du coup ont une dimension beaucoup plus vaste que le fait divers dont souvent ils partent.
C'est ça, c'est ce qui fait que ça devient universel en fait.
Absolument.
Leur thème. Absolument. Et ils travaillent souvent avec des acteurs qu'ils connaissent. Et est-ce qu'ils enquêtent, comment ils travaillent à quatre mains, j'ai envie de dire, les deux frères Jean-Pierre et Luc?
Alors, ils travaillent dans une extrême intelligence. Ils sont très différents. Luc vit à Bruxelles, il est plus passionné de philosophie. Jean-Pierre vit à Liège, et c'est plutôt la littérature et la musique qui l'intéressent. Ils ont des goûts cinématographiques qui peuvent être différents.
Quand ils travaillent ensemble,
oui, c'est très impressionnant l'intelligence de leur travail. C'est-à-dire qu'ils partagent tout. Ce sont des travailleurs forcenés, donc ils sont vraiment dans le travail, dans le détail sur chaque aspect du film. Et ce qui est très important, c'est qu'ils répètent très en amont avec leurs comédiens et dans les décors du film. C'est-à-dire que là, Adèle Haenel a répété pendant un mois avec eux, dans les décors du film, et donc c'est extrêmement préparé, puisqu'il voulait, là, s'agissant de Adèle Haenel, qu'on a vu faire de la natation synchronisée ou des stages commando dans les combattants.
Dans les combattants,
voilà,
absolument.
Il voulait, voilà, un médecin posé, qui écoute, et donc il y a eu tout un travail préparatoire avec elle.
Oui, un travail presque d'enquête, parce que, oui, elle a appris les gestes d'un médecin, stéthoscope et le reste pour être
tout
très
à fait.
Précise.
Donc elle avait un coach.
Elle avait un coach,
avait un
coach.
Ah oui, elle avait un coach médecin, parce que ça a l'air de rien, mais prendre la tension, faire une piqûre, enfiler des gants, c'est une technique qui s'apprend. Et donc, parallèlement aux répétitions avec les frères Dardenne, elle était coachée par un médecin.
C'est passionnant pour un producteur de suivre des réalisateurs qui font régulièrement des films, qui construisent une œuvre, qui sont primés à Cannes et de leur être fidèles. C'est quelque chose de très particulier.
C'est passionnant et c'est une chance extraordinaire. Enfin, c'est aussi moi ce qui me donne de l'énergie et me permet de savoir pourquoi je fais ce métier. C'est voilà, parce qu'ils sont d'un talent immense, d'une grande intelligence, et en plus humainement, c'est très très agréable de travailler avec eux. Oui, ça c'est, j'ai vraiment beaucoup de chance.
Alors ma dernière question, mon cher Denis Fred, c'est je sais que vous avez fait l'exercice de l'État avec Pierre Scheller en 2011, qui était un excellent film qui a marqué nos mémoires parce qu'on avait adoré, avec Olivier Gourmet, je me souviens. Vous travaillez à nouveau avec Pierre Scheller?
Oui, absolument. Et depuis l'exercice de l'État, nous travaillons sur un très gros projet sur la Révolution française, dont le tournage commencera l'été 2017.
Super. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et je rappelle que La fille inconnue des frères Dardenne sort aujourd'hui. Merci Denis.
Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, on était en plein dans l'actualité puisque nous avons eu au téléphone Bertrand Tavernier pour son voyage dans le cinéma français, Jérôme Salles pour l'Odyssée et Denis Fred, le producteur de La fille inconnue des frères Dardenne. Dans un instant, on se retrouve, mais on fait un petit voyage dans la musique de Bruno Coulet. C'était la musique écrite par Bruno Coulet pour son ami Bertrand Tavernier pour ce voyage à travers le cinéma français. Dans un instant, on retrouve nos amis les blogueurs.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Alors mon cher Antoine Corté, vous allez nous parler du Ciel attendra de Marie Castille, mention char.
Et oui, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, effectivement, ouais. En disant que c'était un film choc.
Ouais.
Et ben moi, c'est aussi un film choc et un film coup de cœur, parce qu'effectivement, ce film sur l'embrigadement de jeunes filles dans les djihads et qui les pousse à partir en Syrie, m'a complètement bouleversé, parce que effectivement, on suit trois temporalités, finalement, on peut dire, trois histoires en tout cas. La première, c'est une fille qui a déjà été embrigadée par des djihads et qui du coup essaye de se sortir de ce fléau.
Ça, dans ma mémoire, c'est Sonia, jouée par la jeune Noémie Merlant, voilà, qu'on va entendre tout à l'heure sur une minute parler du djihad, justement, et
exactement,
des films.
Exactement. La seconde, c'est Mélanie, qui du coup, elle, vient de perdre sa grand-mère, qui est un peu en détresse psychologique, et qui, au fur et à mesure, rencontre quelqu'un sur Internet qui, de fil en aiguille, l'amène vers une radicalisation.
Et ça, c'est très bien fait. Hein.
Ouais, c'est vraiment très bien fait. C'est Naomi Amerger.
Absolument, Naomi Amerger. Et ce qu'il faut préciser, Antoine, parce que on a l'impression que le public ne suit pas tellement, parce que le film a été un peu promu comme un film, un court, mais sur le djihadisme, etc. Et je pense que, et de façon normale, le public a un peu peur d'aller voir ce film. Ça lui rappelle une réalité qui est un peu tragique, un peu terrible. Mais ça va au-delà, le film, vous êtes d'accord?
Mais évidemment,
c'est une très belle histoire.
Il y a un vrai scénario et une vraie étude, non pas sociologique, mais cinématographique. C'est-à-dire que la réalisatrice, elle prend soin de raconter une histoire qui va effectivement émouvoir, mais qui va aussi chercher dans des codes de ce qu'on a pu, déjà observer. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Requiem for a Dream, bizarrement.
Ah oui.
Parce que je vois maintenant l'embrigadement comme une sorte de drogue. Et c'est vraiment quelque chose qui est montré dans ce film-là avec des scènes qui sont très perturbantes.
Oui, très fort. Dramatique.
Je pense à une scène où justement,
Sonia.
La petite Sonia qui n'arrive plus à se passer de ses outils de communication, téléphone portable, ordinateur. Et à un moment donné, elle craque. Elle fait, et elle va voir sa mère et elle dit « Maman, j'ai volé un téléphone portable et je suis retombé dedans.
Ouais. »
Et donc du coup, là, on a vraiment l'impression que l'embrigadement, c'est une drogue et qu'une fois que ces jeunes filles sont dedans, elles ne peuvent plus s'en passer, elles n'ont plus d'histoire et elles sont complètement dans une cause qui n'est pas à la leur. Elles n'ont plus de personnalité.
Absolument. Et il faut dire que heureusement dans le film, il y a un peu d'espoir. Il y a le contrepoison, j'ai envie de dire.
Voilà.
Qui est montré à travers cette femme qui fait partie
Dounia Bouzard
qui fait partie de cette organisation sur les dérives sectaires de l'islam
et qui joue son propre rôle.
Voilà.
Et effectivement, elle est mandatée par le gouvernement pour désembrigader des jeunes filles complètement enrôlées par ces terroristes, mais elle a aussi un travail d'accompagnement. Alors moi, ça m'a un peu perturbé parce que je me suis dit au début, elle parle quand même assez sèchement, finalement, que ce soit aux parents ou aux jeunes filles. Alors, aux parents, elle dit, c'est pas bien, ça, non, ça ne va pas. Et je me suis dit,
c'est comme une coach.
Exactement, c'est vraiment une coach et c'est un peu la voix de la raison. Et des fois, il faut dire à ses parents, à ses enfants, sèchement, ce qu'ils ne veulent pas entendre.
Absolument. Merci, Antoine Corté. Alors, vous, Alexis Yomet, votre coup de cœur, enfin, je sais pas si c'est un coup de cœur d'ailleurs. Moi, j'ai pas vu encore le film. C'est le dernier film d'Oliver Stone sur Snowden.
Moi, c'est un coup de cœur.
Ah, tant mieux.
Déjà vu deux fois.
Ah, bon signe.
Voilà, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que bon, il sort le 1er novembre en France, mais j'ai décidé d'en parler aujourd'hui puisque hier et avant-hier, donc lundi, mardi, Oliver Stone a fait sa petite visite à Paris avec
Absolument. Toutes
les tournées d'interviews, de masterclass. Et donc, je voulais déjà en parler maintenant pour faire un petit peu le buzz. Donc moi, j'ai vraiment adoré ce film-là. Donc Snowden, de quoi ça parle? Ça parle d'Edward Snowden. C'était ce lanceur d'alerte qui avait anciennement travaillé pour la CIA et la NSA et qui avait décidé de, en quelque sorte, entre guillemets, trahir son pays en révélant justement un scandale des écoutes à grande échelle au niveau mondial de la NSA qui retenait dans son filet les SMS, les mails, tous les échanges téléphoniques du monde entier. Et pour lui, c'était trop et il avait décidé de tout déballer à la presse. Après, il y avait une traque à travers le monde et aujourd'hui il est encore coincé en Russie avec un droit de séjour de 3 ans. Maintenant il doit être encore à un an et demi.
Et en fait la vraie question c'est qu'est-ce qu'en fait Oliver Stone?
Voilà.
Parce que c'est un film de fiction quand même, c'est pas un documentaire.
Et d'ailleurs il le rappelle au tout début du film, c'est un film de fiction basé sur des faits réels.
Voilà.
Alors au début, enfin en 2014, il y avait eu un documentaire de Laura Poitras qui s'appelait Citizen 4 qui, elle, avait été sur place, a filmé Edward Snowden, c'est elle qui a fait les images. On avait tiré un documentaire qui expliquait très bien comment le scandale s'était fait et comment la CIA s'était rendue coupable, justement, d'écoute massive. Et là, c'était un petit peu technique. Et l'idée de Oliver Stone, c'est de faire un film qui puisse parler à tout le monde, au plus grand nombre. Donc, c'est un film...
universel, quoi.
Voilà, un film assez didactique, assez classique, pour le coup. Il y en a beaucoup qui ont été déçus parce qu'ils attendaient un Oliver Stone de JFK, de Nixon, ouais, qui rentre dans l'art et tout ça.
Platoon.
Voilà. Mais là, Oliver Stone, il a un peu vieilli. Et là, c'est la sagesse qui remplace la
Comme
la
il
fougue.
Le défend bien.
Voilà.
Je crois qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus par le film.
Voilà, oui. Parce que ça se veut.
Vous l'avez vu, Antoine ?
Oui, je l'ai vu. J'ai été déçu parce que.
C'est pas un film qui rentre dans l'art.
Voilà, c'est ça. C'est un peu plat.
Voilà, ouais. Mais justement, c'est pour parler au plus grand nombre, pour bien faire la lumière sur qui est Edward Snowden. Parce qu'aux États-Unis, on a beaucoup qui pensent que c'est juste un traître qui est à la solde des Russes et tout ça, alors que c'est pas du tout ça. Et c'est toute la question du patriotisme. C'est quoi être patriote aux États-Unis ? C'est trahir son pays pour ses propres convictions ou son gouvernement, et toute la question est là. Joseph Gordon-Levitt est très très bien dedans. On n'est pas dans l'imitation, on est vraiment dans l'incarnation, et c'est vraiment une fiction, mais pour moi c'est très bien raconté.
Donc vous le conseillez?
Je le conseille fortement, et qui sort le 1er novembre.
Coup de cœur, coup de blues.
Ouais, voilà, c'est ça.
On va dire ça comme ça. Merci mes amis, dans un instant on se retrouve pour la séquence événements.
Les événements cinéma sont dans la grande séance.
Alors, l'événement cinéma, évidemment, c'est le festival Lumière de Thierry Frémaux et de Bertrand Tavernier, qui a commencé depuis dimanche dernier et qui se terminera dimanche prochain, depuis samedi dernier d'ailleurs, jusqu'au 16 octobre. Et Dieu sait s'il y a des choses à voir dans ce festival Lumière. Nous avons la chance d'avoir en direct du festival Lumière Antoine Julien. Antoine, bonsoir.
Bonsoir Bruno.
Alors comment ça se passe? Parce que moi j'y débarque demain ou après-demain, je veux connaître un peu l'ambiance.
Bah écoutez, là c'est chaud bouillant parce que nous sommes à 20 minutes à peine de la masterclass que va donner Quentin Tarantino.
Ah,
masterclass évidemment très attendue, l'auditorium est archi comble, je ne suis même pas encore tout à fait sûr d'avoir une place, vous voyez. Donc c'est vraiment l'effervescence. Et Tarantino est là parce qu'il présente un cycle autour de l'année 1970. Thierry Frémaux, et lui ont concocté ce programme. Alors on y retrouve des films très célèbres comme MASH, par exemple, mais des films beaucoup moins, comme notamment le premier film de Jack Nicholson que j'ai découvert dans ce festival, qui s'appelle Drive Is Dead. Et voilà, donc Tarantino va électriser la foule dans quelques minutes.
Alors ce qui est formidable, il faut l'expliquer à ceux qui nous écoutent dans ce festival Lumière qui a commencé il y a quelques années. Moi je me disais, c'est un festival sur le patrimoine, ça va être un peu ennuyeux, comment Thierry Frémaux va s'en sortir? Sauf qu'il s'en est sorti superbement avec cette idée de rassembler des grands noms comme Tarantino. Tavernier nous disait qu'il avait croisé Walter Hill, et aussi de demander à des acteurs français de venir présenter des films. Et du coup, pendant le festival, on a des centaines de séances de cinéma à Lyon et aux alentours de Lyon qui refont découvrir le patrimoine du cinéma.
Oui, et ce qui est vraiment étonnant, c'est mon premier Festival Lumière, et ce qui est étonnant, c'est imaginer qu'à 9h30, une salle peut être pleine pour découvrir les premiers films d'une des pionnières du 7e art qui s'appelle Dorothy Arzner, que l'on découvre pendant ce festival, qui a été la première femme cinéaste à Hollywood dans les années 30 et 40. Et imaginez une scène pleine pour des œuvres aussi méconnues, ça donne un peu l'idée de l'effervescence autour de ce festival et de la présence du public qui fait salle comble quasiment à chaque séance.
Et il y a notre ami Antoine Cyr qui est peut-être présent autour de son livre quand même.
Oui, ben Antoine, je l'ai rencontré pour Flashback. Il nous a parlé bien sûr de son livre Somme. Hein. C'est 1200 pages.
C'est un livre qui va faire référence, parce qu'il n'y a jamais eu un livre comme ça sur les stars
d'Hollywood.
Ah non,
c'est une première, et il relate le parcours de toutes ces actrices, des plus connues aux moins connues. C'est un ouvrage qui en effet fait un peu sensation au Festival Lumière. Ça va sans doute être une sorte de bible pour tous ceux qui aiment cette époque-là du cinéma. Et Antoine Cyr, évidemment, en est une des meilleures plumes.
Alors, dernière question. Est-ce que vous sentez, vous qui êtes au cœur de ce festival, oui, comme vous dites, il y a Tarantino, mais l'effervescence générale, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'on s'aperçoit que les spectateurs lyonnais ou autres adorent le cinéma et sont prêts à redécouvrir des vieux films. On est d'accord?
Oui, et ce qui est très bien dans cette programmation, c'est l'éclectisme, puisque on peut aller d'un cycle autour de Marcel Carné, sur les femmes à Hollywood, l'année 70, des réalisateurs que Bertrand Tavernier notamment nous fait redécouvrir, je pense à un réalisateur américain des années 40 qui s'appelle Edward Kahn. Voilà, il y a une diversité qui peut toucher tous les publics, et puis il y a aussi des événements plus rares. Hier, par exemple, j'ai pu assister à un ciné-concert autour de Buster Keaton, donné génial. Par l'orchestre de Lyon, et c'était un émerveillement. Il y aura d'autres événements comme ça. Il y a un autre ciné-concert dimanche sur un film de Marcel Verbier, sans oublier bien sûr évidemment le grand événement qui sera vendredi, l'hommage qui sera rendu à Catherine Deneuve.
J'allais le dire, il faut pas l'oublier, parce que il y a eu Scorsese, il y a eu Tarantino, il y a eu Almodovar, et c'est la grande Catherine Deneuve qui est l'héroïne cette fois. C'est elle qui va être honorée dans ce festival Lumière, et elle va faire aussi une masterclass avec Thierry Frémaux, si je me souviens bien, vendredi de 15h à 16h, et c'est une grande dame du cinéma que le festival honore. En tout cas, merci beaucoup Antoine Julien. Je rappelle que sur Séance Radio, il y a un flashback spécial Lumière tous les soirs jusqu'à vendredi à 17h, et avec vous bien sûr. Merci en tout cas à vous.
À très bientôt.
À très bientôt. Dans un instant, on se retrouve pour notre séquence débat.
La grande séance, le débat.
Alors le débat, on en parlait tout à l'heure avec Antoine Corté du Ciel attendra, ce film de Marie-Castille Mention-Char sur ces deux jeunes filles embrigadées, enfin c'est un film de fiction, et on s'était dit que on allait prendre comme sujet de débat, est-ce que le cinéma ne réagit Est-ce que le cinéma ne réagit-il pas plus tôt rapidement à l'actualité d'aujourd'hui? Parce que on a toujours reproché au cinéma français, par rapport au cinéma américain, Oliver Stone, Platoon, c'était juste après la guerre du Vietnam, de prendre du temps à parler de la guerre d'Algérie, par exemple, de la guerre 39-45, de pas rouvrir les blessures, d'être très timide à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a toute une flopée de films sur le djihadisme, plein, on va en parler tout à l'heure avec Antoine et Alexis, qui sortent en ce moment, et c'est une réactivité assez rare dans le cinéma français. Alors moi, à propos du Ciel attendra, de Marie-Castille Mention-Char, qui est encore dans les salles, que je vous conseille de voir, j'ai rencontré la jeune Noémie Merlant, celle qui joue Sonia, dont on parlait tout à l'heure, et je lui ai demandé que justement, elle, jeune actrice, elle a 27 ans, est-ce qu'elle trouvait pas qu'il n'y avait pas un mieux, il n'y avait pas du progrès dans la manière dont justement le cinéma français s'empare maintenant de l'actualité? Écoutez sa réponse.
Bah, j'ai l'impression, et surtout en France, c'est vrai qu'à chaque fois, en parlant avec les gens autour de moi, on a toujours tendance à dire qu'en France, on évite de parler, enfin il faut du temps avant de parler de sujets qui sont très actuels. Et c'est vrai que là, entre Made in France, les cow-boys, enfin il y en a eu beaucoup. Et en même temps, je trouve que c'est important en fait. C'est vrai que c'est délicat parce qu'on est en plein dedans, mais j'ai envie de dire qu'il faut justement se relever les manches et y aller, parce que c'est maintenant qu'il faut. Je pense que des films comme Le Ciel attendra, entre autres, c'est des films qui permettent aussi d'avancer, et c'est important d'essayer d'avancer, de comprendre maintenant. Donc je trouve que c'est une bonne chose, et je suis fière que le cinéma français s'y attelle.
Vous voyez que la jugeote, cette jeune actrice qui ira loin d'ailleurs, parce qu'on la voit de plus en plus sur les écrans, je pense que un jour elle deviendra une grande star. Alors Antoine et Alexis, le débat est lancé, et c'est vrai que c'est la première fois, moi, depuis que je fais ce métier, que je vois, je pense, le cinéma français, les réalisateurs, les jeunes réalisateurs, réagir aussi vite à l'actualité, aussi brûlante, avec le Bataclan et autres Charlie. Comment vous, jeune critique et jeune journaliste cinéma, vous réagissez à ce débat?
Moi,
Antoine.
Moi, c'est exactement déjà la question que je me suis posée en regardant ce film-là. Et c'est bizarre d'avoir un film qui réagit aussi brûlamment, si je peux dire, à l'actualité. Et en fait, je trouve ça très intéressant, ce cinéma d'urgence, parce que plus que réagir à une actualité, on sent que c'est aussi réagir à un courant et à l'ère du temps et à une crainte aussi, peut-être une peur, et c'est peut-être mettre des mots et c'est une écriture qui est nourrie peut-être par des inquiétudes et une envie d'exorciser. Donc du coup, je pense que c'est très intéressant de vouloir parler des choses actuelles, parce que ce qui peut nous faire peur à tout le monde doit se rejaillir dans l'art et notamment dans le cinéma.
Parce que la jeune Noémie Merlan a cité quelques films, mais moi je me souviens déjà de La Désintégration de Philippe Faucon, qui était remarquable. Bon, elle a cité les Cowboys de Thomas Bilguin, il y a Nocturama, mais il y a eu d'autres films, il y en a beaucoup, hein, Alexis.
Oui, mais moi je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Bruno, sur les Américains qui parlaient déjà de la guerre du Vietnam 2 ans après, avec notamment Voyage au bout de l'enfer aussi de Cimino, qui était un des premiers à traiter du sujet. Mais nous, c'est une question de culture aussi. C'est une question de culture, puisque en France, notamment déjà la guerre de 14, il y a pas mal de films déjà qui parlent de l'horreur des tranchées, tout ça, entre les deux guerres. Mais après 45, donc la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale et qui ont eu du succès en France. Mais par exemple, en France, on ne faisait surtout pas de films sur la collaboration.
Absolument.
Ça, on n'en parlait pas. Puis après, vient la guerre d'Algérie. Pas de film sur la guerre d'Algérie.
Il y en a eu un qui a été interdit à l'époque.
Voilà, ouais. La bataille d'Alger, ça a été interdit. Les Sentiers de la Gloire, Pontecorvo, oui, pourtant les Sentiers de la Gloire, qui parlent de 14 et des tranchées qui est sorti pour la guerre d'Algérie, a été interdit par l'État. Donc, pareil, on a fait des films comme Les Parapluies de Cherbourg, qui parlent de loin de la guerre d'Algérie, mais qui ne parlent pas directement du conflit, parce qu'il n'y est pas censé y avoir de guerre officiellement. Et il y avait eu pas mal de problèmes, parce qu'à l'époque, on menaçait de poser des bombes dans cinéma qui diffusait des films un petit peu franc-du-collier, notamment avoir 20 ans dans les Aurès, des films comme ça qui étaient vraiment qui allaient franco sur le sujet, ils risquaient de créer des tensions, des polémiques. Et moi, je pense aussi des sujets comme la peine de mort, où à l'époque étaient sortis Deux hommes dans la ville avec Gabin et Delon, qui avaient fait scandale et pourtant qui avaient réuni 2,5 millions de spectateurs, et qui étaient, on était 7 ans avant l'abolition de la peine de mort. Alors que pourtant Delon était pour, et pourtant il a produit ce film-là, où ce film dénonce justement ce sujet-là. Donc c'est vraiment une question de culture, et je pense qu'aujourd'hui, on est plus enclin à produire des films, et il y a aussi le temps de l'écriture aussi, sur des sujets un peu plus brûlants.
Oui, mais pourquoi vous venez de le dire, des événements tragiques comme la guerre, la dernière guerre mondiale, le régime de Vichy, ou la guerre d'Algérie, les tortures, etc., n'ont pas suscité une réactivité immédiate. Et pourquoi ce qui se passe autour de l'islamisme le fait? Parce qu'on pourrait être tétanisé. On pourrait être tétanisé par l'affaire de Charlie Hebdo, tétanisé par l'affaire du Bataclan, et pudiquement ne pas vouloir en parler. D'ailleurs, Antoine, les films ne marchent pas très bien. On est d'accord ou pas, Antoine?
Moi, ça me renvoie aussi à... Je vais rebondir sur un film, sur Le Labyrinthe du silence, qui explique un peu la honte que les Allemands ont eue de parler de leur propre histoire et de la guerre. Et je pense qu'on a exactement le même sentiment en France pour parler de notre propre histoire. La guerre d'Algérie, ça a peut-être laissé des marques. Et effectivement, il a fallu au cinéma le digérer. Et donc, d'où l'absence de films extrêmement actuels.
Alexis ?
Et après, à l'époque, on voulait le faire. Il y a des réalisateurs, des producteurs qui étaient prêts à le faire, qui étaient prêts à mettre de l'argent. Le problème, c'est qu'après le contrôle de l'État, le visa de distribution n'est pas distribué au film, donc le film n'a pas le droit d'être diffusé en salle et donc ne peut pas sortir. Donc il y avait cette pression là. Puis même aujourd'hui, c'est aussi comment le dire, comment le faire. Qu'est-ce qu'on va raconter sur l'embrigadement, sur le djihad? Est-ce qu'on va raconter un film positif? Est-ce qu'on va raconter un film qui nous dit qui est complètement nihiliste et qui dit que l'avenir va être complètement sombre? Faut que ça passe aussi par le CNC, faut que le film puisse réunir un peu d'argent pour être fait et savoir s'il réunira suffisamment de spectateurs. Et je déplore l'échec commercial de Nocturama, qui raconte beaucoup de choses et qui n'a même pas fait 40 000 entrées, enfin, qui a fait 50 000 entrées à peine, quoi.
Oui, là, on n'était pas d'accord sur les qualités de Nocturama, mais ceci est un autre débat. Mais c'est vrai que pour un producteur ou pour un distributeur, c'est un peu risqué de faire ce type de film, parce qu'on comprend que les spectateurs en ce moment n'aient pas spécialement envie qu'on leur mette le nez sur leur peur. Et voilà, il faut.
Oui, c'est que du coup, effectivement, moi, je comprends que les gens aient envie d'aller voir Radin plutôt que Le Ciel attendra. Et mais même si effectivement qualitativement on n'est pas sur le même piédestal.
Mais il faut ces films-là puisque ça parle de notre actualité.
Qui est Radin ?
Non, ça aussi. Mais ça
parle de notre actualité.
Ouais. Ça fait partie du spectre, mais dans les 10 prochaines années, on reparlera des petits films qui sont sortis à cette époque-là aujourd'hui, que personne ne verra sûrement, mais qui feront partie de l'histoire du cinéma français sur des sujets brûlants.
Dans un instant, on se retrouve pour notre fameux blind test.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Alors, évidemment, actualité oblige. À l'occasion de la sortie de l'Odyssée de Jérôme Salles, qu'on a entendu tout à l'heure au téléphone, nous a fait le plaisir d'être là, on va faire un petit quiz sur les films consacrés à la mer. Alors, attention. Ah, il faut pas regarder, hein, c'est bien. Il regarde pas, en fait, hein, parce que moi j'ai ma feuille. Il faut pas copier, hein, c'est pas bien. Alors, La Mer au cinéma, petit 1, on y va.
Une histoire de baleine, c'est ça, 20 milieux sous les mers.
Ouais, t'as pas regardé, c'est sûr.
Ah bah c'est
bon,
sûr.
C'est bien. 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer, 1954. Excellent.
D'ailleurs, dans l'Odyssée, il y a à un moment donné une couverture de Paris Match en référence avec les dettes de Cousteau et on appelait ça 20 millions sous les mers.
D'accord. Numéro 2.
1492.
Bravo. Et comment vous avez reconnu ?
Bah, Vangélis. Cette musique-là, elle revient trop fort.
Parce que c'est des musiques, c'est pas des bandes annonces, hein, donc attention. Hein. Ridley Scott, bien sûr. Oui. C'était pas en 1492, c'était en 1992, le film. je crains que vous alliez plus vite que votre ombre. Voilà. Le numéro 3.
James Cameron.
Ouais.
Abyss.
Abyss, ouais, exact. 1989. Le numéro 4, normalement, ça va être un peu plus difficile. Ah, 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 vous étiez pas né, là, c'est clair.
Le Moby Dick de Houston, non ?
Non. Ah. Allez, vous donnez votre langue au requin.
Ouais.
C'est Les Révoltés du Bounty de Lewis Milestone. Milestone, peut-être, 1962. Ah, celui-là, j'adore. Attention, le numéro 5.
Ah.
La musique était géniale. Bravo.
Ouais.
Moi, je l'avais vu en série télévisée, et c'était remarquable, de Das Boot de Wolfgang Petersen. Et cette musique, je m'en suis souvenu, parce qu'elle était très belle. Trop facile. Numéro 6.
Elle est dans de la mer.
Qu'est-ce qu'on a entendu là ? On peut en écouter un petit peu ou quoi là ? Ah ouais, d'accord. Les Dents de la Mer, évidemment, de Spielberg, c'était en
74 ?
Non.
Ah non, je sais pas.
73.
75. Pas mal. Mais j'ai réussi à le piéger quand même. Trop facile, le numéro 7.
Le Grand Bleu.
Sur une note de musique. Hein. Le Grand Bleu, alors là, on va essayer de les piéger. Quelle année ?
85.
Non.
Ah non.
1988. Ouais, c'est récent, hein.
Il s'est quand même fait huer à Cannes. C'est un scandale.
Il s'est fait huer à Cannes et moi je l'avais défendu et du coup, je suis pote avec Luc Besson depuis cette époque. Voilà. parce qu'il n'oublie jamais Luc Besson. Le numéro 8.
Nemo.
Ouais, non, ça j'aurais pas su. Andrew Stanton et Lee Unkrich 2003. Trop facile, le 9.
Ah, Titanic.
Voilà. Ah, oui. Bravo, Titanic. Quelle année, Titanic ?
99. 80...
Ah ouais, 16, 98, j'aurais dit.
98.
96.
97, ni l'un ni l'autre, excellent. Et le numéro 10.
La vie aquatique.
Bravo, super. Ah mais ils auraient gagné au Monsieur Cinéma du regretté Pierre Tchernia, hein, qui nous a quittés cette semaine. Hein. Parce que là, je sais que les types étaient super calés, Monsieur Cinéma, mais pas plus calés que vous. Hein. Très très fort. Hein. La vie aquatique de Wes Anderson, quelle année ?
2004.
Bravo Alexis. Dans un instant, on se retrouve pour conclure cette émission.
La Grande Séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Alors je parlais de Pierre Tchernia, mais je voudrais rendre hommage à un grand réalisateur qui nous a quitté cette semaine, c'est Andrzej Wajda, je ne sais pas le prononcer à la polonaise, il avait 90 ans, et pour tous ceux qui nous écoutent et pour la jeune génération qui ne le connaissait pas, c'est je pense moi un des plus grands réalisateurs qui était vivant, un des 10 plus grands réalisateurs dans le monde. Il avait fait un film qui avait beaucoup marqué les Polonais qui s'appelait Cendrée de Diamant en 1958 parce qu'il parlait de la bataille entre les nationalistes polonais et les communistes polonais. Cendrée de Diamant, qui est un très beau film. L'Homme de Marbre, bien sûr, en 1977. L'Homme de Fer, qui était l'histoire de l'ère Falaisa et l'épopée de Solidarnosc. Tout ça, vous pouvez les retrouver en DVD. Il a vu la Palme d'Or avec L'Homme de Fer en 1981. Et il avait fait le fameux Danton avec notre Gérard Depardieu, donc film français puisqu'il avait eu un César, 1983. Moi, j'avais vu le dernier qui était un peu plus classique et qui racontait l'histoire intime de Lech Walesa, qui s'appelait L'Homme du Peuple, en 2013, et qui racontait Walesa du côté de sa famille et de son intimité. Et puis, il y avait eu un film très fort en 2008 qui s'appelait Katyn, qui avait été nommé aux Oscars, et où il racontait surtout ce qui est arrivé à son père. Car en 1940, son père a été abattu
par les soviétiques
d'une balle dans la tête, puisqu'il y a eu un massacre de 22 500 officiers polonais qui ont été abattus par les soviétiques, qui ont fait passer ça pour un crime par les Allemands, mais en fait c'était vraiment... Voilà. Et son père, ça lui était arrivé, et deux ans plus tard, à 16 ans, notre ami Wajda s'engageait dans la résistance polonaise contre les nazis. Donc voilà, il fallait lui rendre hommage, parce que c'est un grand cinéaste, donc allez revoir ses films. Il avait eu deux ours d'argent en Berlin, deux Césars, des BAFTA, des Oscars, voilà. Cette émission se termine. Nicolas, vous nous rappelez comment on peut nous joindre et participer à l'émission?
C'est sur les réseaux sociaux pour poursuivre toute l'actualité du cinéma et de la radio, Séance Radio sur Twitter.
Et merci Alexis pour vos commentaires, merci Antoine, merci à tout le monde dans ce studio. Merci. On va se retrouver théoriquement mercredi prochain pour une autre émission, on parlera encore d'actualité, on parlera de tous les films qui vont sortir, Réparer les vivants, Brise de Nice 3, il y a de quoi faire encore du côté du cinéma français et du cinéma international. À bientôt, à la semaine prochaine.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.